Et donc le programme, vous le connaissez, je le rappelle, je le rappelle rapidement, hein, je vais passer la parole tout de suite à Alain Bozzioli, qui va être le président de séance. On va revenir sur Alain, il va se présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Nous aurons ensuite un court-métrage de Jean-Michel Roberts sur le Dublin, non pas de Bram Stoker, mais de façon plus générale, les écrivains irlandais, dont Bram Stoker.
Fantastique.
Et, fantastique, bien sûr. Ensuite, Richard D. Nolan nous parlera de Bram Stoker à Dracula et la postérité. Nous ferons une petite pause. Ensuite, ayant eu la chance d'aller très souvent en Roumanie, je vous ferai une petite présentation sur Bram Stoker n'est pas allé en Roumanie, mais pourtant, avec, disons, un certain nombre de souvenirs de voyage. Et puis, en fin de matinée, Rémi Boyer, qui vient d'arriver, nous dira quelques mots de présentation sur un livre que les éditions de l'Œil du Sphinx ont publié il y a peu de temps et qui s'appelle « Noces de sang à Bucarest ». Et c'est un livre tout à fait intéressant dans la mesure, c'est un thriller, hein, c'est un roman, mais c'est un mélange astucieux, je trouve, entre les thèmes du vampirisme et un fond d'ésotérisme assez prégnant. Ensuite, nous irons déjeuner dans le quartier, hein, déjeuner libre. Il y a plein de petits bistrots dans tous les coins quand on descend la rue. Et nous nous retrouverons à 14h30 pour le deuxième court-métrage de Jean-Michel. Et donc, après être allé à Dublin, il nous emmènera à une ville formidable, à Whitby, où on mange du délicieux hareng fumé, mais c'est pas pour ça qu'on vous présentera Whitby. Ensuite, Marc Maduro, qui est le spécialiste du cinéma, non pas X, mais B, Z ou W.
Ça n'empêche pas.
Et ça n'empêche pas. nous fera un petit rappel sur Bram Stoker, Dracula et la descendance cinématographique. Patrice Allard, qui est arrivé, nous fera un petit clin d'œil sur notre cher compère Van Helsing. Une petite pause. Et puis, le programme est riche. Hein. Yves Lignon, que beaucoup connaissent, hein, de l'Université de Toulouse, Le Mirail, nous parlera de son coup de cœur, qui est Christopher Lee. Et puis, nous terminerons avec Jean-Luc Rivera, que beaucoup connaissent aussi, et Jean-Luc Rivera, qu'on appelle maintenant le pape de la beatlit. Alors, le premier titre que j'avais retenu, c'était « Bram Stoker n'aurait vraiment pas aimé la beatlit ». Et puis, finalement, on l'a changé pour faire plaisir au pape de la beatlit. C'est « Bram Stoker aurait-il aimé la beatlit ». Donc, le sujet n'est pas fermé.
Est-ce qu'on aura la réponse?
Est-ce qu'on aura la réponse? Et puis, Alain terminera et conclura la journée. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, donc il faut simplement s'inscrire pour que je prévienne le restaurant. On pourra poursuivre la soirée dans un petit restaurant de Belleville qui s'appelle Le Pacifique, où j'ai négocié pour 25 euros tout compris, y compris la boisson, une dégustation de canard laqué, mais du vrai à la pékinoise, comme au pays. Voilà. Donc voilà pour le programme.
On aurait pu choisir du steak tartare quand même.
Oui, mais bon, c'est un quartier chinois, donc il n'y a pas beaucoup de restaurants roumains. Et... Bon, donc je passe la parole à Alain, que beaucoup connaissent, hein, par son abondante production littéraire sur les vampires, sur Dracula. Je pense à la Bible Dracula, qui est un bouquin vraiment de référence. Et puis je pense à un bouquin qui est là et qui devait arriver en avant-première pour nous tous, Yvan Parler, qui est une biographie de Bram Stoker. Bon, Alain, à toi de jouer, je me tais.
Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Merci tout d'abord à Philippe de m'avoir proposé de présider cette journée. C'est un grand honneur, ça me fait très plaisir. Parce que Bram Stoker et moi, comme dirait l'autre, c'est du sérieux. Ça fait plus de 20 ans que ça dure et donc c'est vraiment un compagnonnage qu'on mène tous les deux. Alors avant toute chose, je voudrais faire un petit rectificatif au niveau de la date. La date de mort, la vraie date de mort de Stoker n'est pas le 21 avril, mais le 20. Et la faute m'en incombe parce qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'ai publié ma première biographie sur Stoker, il y a eu une coquille dans le texte que je n'ai pas vue et que personne n'a vue à l'époque. Et au lieu de 20, il a été marqué 21. Et depuis, tous les gens qui se sont référés à ce bouquin, moi y compris, ont reproduit cette erreur. Et je m'en suis rendu compte au mois de décembre dernier, parce que je suis retourné à Dublin et à Londres pour faire des photos pour le nouveau bouquin qui sort. Enfin, logiquement, on aurait dû l'avoir aujourd'hui. Malheureusement, ça fait 48 heures qu'on se court après avec Colissimo et impossible de l'avoir. Donc, logiquement, on aurait dû pouvoir en avoir des exemplaires. Malheureusement, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est à l'occasion de ce livre, donc je suis allé sur place. Je suis allé à Londres, au Columbarium de Golders Green, où se trouvent les cendres de Stoker qui sont dans une urne funéraire. Et arrivé devant l'urne funéraire, j'ai vraiment vu mon erreur. Il y avait vraiment marqué 20 avril dessus. Donc en deux secondes, 20 ans de réputation se sont effondrés. Et donc voilà, je voulais quand même faire cette petite précision parce que vous allez sûrement trouver dans les semaines qui viennent soit des émissions de radio, soit des livres ou des différentes choses. Vous aurez les deux dates, donc vous saurez pourquoi. Alors donc, Philippe m'a demandé donc de vous expliquer un petit peu pourquoi et comment j'en étais venu à travailler sur Stoker. En fait, mon intérêt remonte à beaucoup plus loin qu'il y a 20 ans. Ça remonte vraiment aux années 60, donc autant dire au siècle dernier. Et ça remonte à l'époque où Terence Fisher a sorti le film Dracula, Prince des Ténèbres, avec Christopher Lee. Et moi, ça m'avait beaucoup impressionné, mais à l'époque, je n'ai pas pu voir le film parce qu'il était interdit au moins de 18 ans, étant mineur, donc j'y avais pas droit. Mais par contre, j'avais vu des bandes-annonces à la télévision qui m'avaient vraiment beaucoup impressionné. Et j'avais aucune idée de ce que représentait Dracula, j'en avais jamais entendu parler, mais le personnage en lui-même m'avait beaucoup marqué. Évidemment, quand on voit Christopher Lee pour la première fois, c'est quand même impressionnant. Et donc... Le hasard a voulu que, pratiquement à la même date que le film, je rentre dans une librairie et en exposition, il y avait le Dracula de Bram Stoker. C'est la première fois que je voyais le nom de Bram Stoker. J'en avais jamais entendu parler avant. J'ai acheté le livre, et je l'ai toujours d'ailleurs, c'est l'édition de Marabout 1963, traduite par Lucienne Molitor avec une préface absolument passionnante de Tony Fèvre. Et je crois d'ailleurs que c'est grâce à cette préface de Tony Fèvre que j'ai eu envie de m'intéresser à Stoker, parce que déjà il y avait plein de pistes qui faisaient que ça, il était évident que c'était quelqu'un qui était intéressant, dont on ne savait rien, mais qu'il fallait travailler sur lui. Et donc j'ai toujours ce livre aujourd'hui, et pendant des années je l'ai lu et relu, et chaque fois, j'avais vraiment la même sensation de découverte, de redécouverte. C'était vraiment un livre magique qui se réécrivait au fur et à mesure des lectures successives. Et pendant quelques années, je l'ai écarté, je l'ai oublié, pendant notamment mes années d'études. Et puis un jour, j'ai eu à nouveau l'idée, j'ai encore envie de le lire, peut-être 10 ans après. Et ça a été la même magie. J'ai retrouvé vraiment le même engouement, le même étonnement, une découverte perpétuelle. Et donc, en plus, à l'époque, j'étais grand fan d'Edgar Poe. Je croyais qu'il n'y avait rien de mieux. Et en fait, quand j'ai lu Dracula, j'ai eu le sentiment qu'on montait encore d'un cran. Il y avait quelque chose de beaucoup plus fort dans le roman, en tout cas. Et donc, ma curiosité a été aiguisée, comme ça. Et Nos routes se sont croisées, si on peut dire, quelques années après, au début des années 80. J'ai vu dans Le Monde un article qui disait que le ministère de la Culture accordait des bourses d'écriture pour des projets de scénario. Et ma première idée, ça a été de proposer un scénario sur la vie de Stoker. Alors je pense que de là-haut ou d'en bas, je ne sais pas où il est, ou de son urne funéraire, il a fait quelque chose. J'ai eu cette bourse d'écriture. Et grâce à ça, ça m'a permis de partir sur ses traces, à Dublin et à Londres. Et ça a été vraiment passionnant, parce que je suis allé sur les lieux où il a vécu, je suis allé sur les lieux où il a situé le roman Dracula, sauf en Roumanie. J'ai encore jamais pu mettre les pieds en Roumanie. Je suis allé à Whitby, tout ça. Et donc, au retour de ce voyage, j'ai rédigé un scénario, puisque c'était le but, un scénario pour le cinéma. Malheureusement, le film ne s'est jamais monté. Donc, de scénario de cinéma, j'en ai fait un scénario de télévision. Et à la télévision, quand j'ai proposé ça, je me souviens encore d'une note de lecture d'un lecteur, justement, qui mettait « On se demande où le scénariste a été chercher tout ça. » Simplement dans la vie de Stoker. Donc, ça prouve vraiment que c'est une vie incroyablement riche. Et donc, le film télé ne s'est pas fait non plus. Mais par contre, ça aboutit à une dramatique sur France Culture, qui a été réalisée par Claude Mourtet, qui est une dramatique de 2 fois 1 heure, dans laquelle Stoker est incarné par Jean-Luc Bideau. Et d'ailleurs, cette dramatique est rediffusée demain soir à minuit sur France Culture, toujours. Donc, si vous avez l'occasion, vous pourrez la découvrir. Et donc, après cette dramatique, j'ai eu l'idée d'utiliser la dramatique comme base pour démarcher un éditeur, parce qu'il n'existait aucune biographie sur Stoker en français. J'ai réussi à trouver un éditeur intéressé, c'était donc la librairie Séguier. Le livre est sorti sous le titre « Bram Stoker, prince des ténèbres », mais c'est épuisé depuis de nombreuses années. Et à l'époque, on pensait encore que Stoker était l'auteur d'un seul livre, Dracula. Or, en fait, évidemment, il n'en est rien, parce que je me suis rendu compte qu'il avait écrit une 20aine de livres. Sur les 20 livres, il y a 11 romans, alors qu'ils ne sont pas tous aboutis. On ne peut pas dire que tout soit du même niveau que Dracula, bien évidemment. Il y a des livres qui sont, disons, bâclés. Je pense au Repère du ver blanc, qui part sur un postulat quand même intéressant, mais qui est très mal ficelé. Alors, mon explication, c'est que c'est le dernier livre que Stoker a écrit, et je pense qu'il y a 2 raisons qui font que ce livre n'ait pas réussi. C'est que d'une part, il avait besoin d'argent, parce que le théâtre dans lequel il travaillait avait fermé ses portes depuis plusieurs années déjà, donc il ne vivait plus que de ses droits. Donc, à mon avis, il avait vraiment intérêt à placer le plus de textes possible. C'est d'ailleurs une des époques de sa vie où il a écrit le plus d'articles dans la presse. Donc, ça prouve vraiment qu'il avait besoin d'argent et qu'il faisait un petit peu feu de tout bois. Et j'ai un petit trou. Qu'est-ce que je vous disais?
Il avait besoin.
Oui, voilà. Donc, l'autre raison qui est importante, merci Jean-Michel, c'est que Stoker était à la toute fin de sa vie. Je pense qu'il se sentait vraiment au bout. Il était très malade. Il voyait presque plus rien. Donc, il a dû écrire ce livre dans des conditions assez déplorables, ce qui explique peut-être la raison de ce livre qui n'est pas complètement abouti. Mais par contre, dans chacun de ses autres livres, il y a quand même des fulgurances extraordinaires. Il y a je pense à la Dame au linceul, par exemple, qui est un petit peu le pendant féminin de Dracula. Il y a vraiment une richesse d'écriture évidente. Mais par contre, ce qui me semble plus évident encore, c'est que Stoker est peut-être un meilleur nouvelliste que romancier. Ses nouvelles sont très, très abouties, elles sont très ciselées. Il y a un souci du détail, du décor. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que Philippe dira tout à l'heure, c'est que Stoker n'a jamais mis les pieds en Roumanie, enfin en Transylvanie en tout cas, et la description qu'il en fait est vraiment très très précise, on pourrait y croire. Donc voilà, et pendant Stoker, pendant très longtemps, malheureusement à tort, a été considéré comme un auteur de seconde catégorie, c'est-à-dire un auteur de paralittérature. Et depuis quelques années, je pense que le vent a tourné, parce que notamment en Angleterre, je me suis rendu compte que les ouvrages de Stoker, Dracula en tête, font maintenant partie dans les librairies de la section classique. Il est à côté de Dickens, de Shakespeare, de Victor Hugo. Donc ça veut dire que le vent a tourné et que quand même, on le prend un peu plus en considération qu'avant. Alors, en parcourant sa vie, justement, je me suis rendu compte d'une chose assez étonnante. C'est qu'on a l'impression qu'une espèce de malédiction pèse sur lui. Comme vous le savez sans doute, il a vécu pendant 30 ans, à côté en tout cas, ou dans l'ombre, d'un grand acteur qui s'appelait Henry Irving, qui était une superstar à l'époque. Et il est évident que quand ils allaient tous les deux quelque part, le seul qu'on voyait c'était Irving, c'était jamais Stoker, il était toujours rejeté dans l'ombre. Et cette malédiction semble s'être poursuivie même après sa mort, puisque quand Stoker est mort, donc le 20 avril 1912, les journaux n'en ont pratiquement pas parlé. Il y a peut-être que le Times qui a fait un petit article nécrologique de 5 lignes, parce que malheureusement pour lui, 5 jours avant, il y avait eu le naufrage du Titanic. Donc la presse mondiale faisait ses gros titres sur le Titanic, et quand Stoker est mort, personne ne s'en est rendu compte. Et cette malédiction a continué après sa mort, puisque Dracula est devenu une superstar dans le monde entier, d'abord par le théâtre, mais évidemment surtout par le cinéma. Et pendant 50 ans, on a parlé de Dracula, mais absolument personne ne savait qui était Stoker. Il faudra attendre de 1962, donc exactement 50 ans après sa mort, pour qu'un auteur commence à travailler sur lui et fasse une biographie. C'est Harry Ludlam, qui a donc publié un ouvrage qui s'appelle « Biography of Dracula, The Life Story of Bram Stoker ». Donc ça, c'était le premier livre. Par contre, après, il y a eu, jusqu'à présent, on compte à peu près, il me semble, à peu près une dizaine de biographies dans les pays anglo-saxons. D'ailleurs, que Alain Sproul a justement judicieusement compilé dans son petit ouvrage qui est là. Et là, il a fait un travail formidable, parce qu'on vraiment, je crois que rien n'y manque. Donc vous verrez, c'est vraiment passionnant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, à part les pays anglo-saxons et la France, où il y a eu ma biographie en 89, il n'y a pas de biographie dans les autres pays. Il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas en Espagne. Il n'y en a qu'en Angleterre et en Grande-Bretagne. Donc, j'étais content de sortir ça, mais malheureusement pour vous, aujourd'hui, vous ne le verrez pas. Enfin, vous pouvez le compulser, bien sûr, mais vous ne pouvez pas repartir avec. Moi, je vous précise quand même, à toutes fins utiles, qu'il sort le 14 mai. Alors donc, cette malédiction, j'ai l'impression qu'elle continue encore, puisque aujourd'hui, on célèbre tous ensemble le centenaire de sa mort, mais dans la presse en France, de quoi parle-t-on? Des élections et pas de Stoker. Donc, il a vraiment un boulet.
Du Titanic aussi.
Et du Titanic, alors là, une fois de plus. Donc, c'est une grande injustice, parce que Stoker était un touche-à-tout. Il a été journaliste, c'était un homme de théâtre, il était l'agent, l'impresario, l'éminence grise d'Henry Irving. C'était aussi l'agent d'Ellen Terry. Ellen Terry, c'était une superstar aussi à l'époque. C'était l'équivalent en Angleterre de Sarah Bernhardt en France, donc c'était vraiment quelqu'un de très très important. Et puis Stoker était à la jonction de plein de choses. Il y a la littérature, il y a le journalisme, il y a la politique, il n'a jamais fait de politique, mais quand même, il était dans un courant où il était sans cesse en contact avec, par exemple, Gladstone, qui était le Premier ministre de Grande-Bretagne. Il était très ami aussi avec Winston Churchill, puisqu'il a été invité avec sa femme au mariage de Churchill, donc ça prouve quand même qu'il y avait des liens. Et il a aussi... on ne peut pas dire frayé, parce qu'on n'en est pas sûr, avec l'occultisme, parce qu'on a souvent dit qu'il avait appartenu à la Golden Dawn. Alors en fait, il y a quelques années, quand j'étais allé à Dublin, justement, pour la première bio, j'avais rencontré Leslie Shepard, qui était le président de la Bram Stoker Society de Dublin, et qui m'avait certifié que Stoker n'avait jamais, jamais appartenu à l'ordre, mais par contre, il était en contact permanent avec plusieurs membres de la secte. Mais donc, c'est dire quand même que Stoker est un petit peu... il touche à tout, quoi. Il touche à tout, dans tous les domaines. Alors, dans cette nouvelle bio, j'ai
j'ai poursuivi une piste qui avait été effleurée dans pas mal de biographies anglaises, mais toujours avec un petit côté hypocrite. On annonce un truc, mais bon, il ne faut pas trop comprendre ce que c'est, et puis finalement, on ne développe pas. Et en fait, la piste que j'ai poursuivie, c'est l'homosexualité latente de Stoker, ou en tout cas refoulée, parce que c'est vrai que Stoker... L'amitié de Stoker pour Irving, c'est évidemment plus que de l'amitié. Et donc, je pense que c'est une piste que j'ai creusée un petit peu à fond. J'ai pointé dans sa vie et même dans son œuvre tous les éléments qui tendraient à prouver cette chose. Et je pense que ce n'est pas une allégation en l'air. Il y a vraiment de... Ça me paraît évident que Stoker avait une sensibilité homosexuelle qui s'explique dans sa vie, qui s'explique dans ses rapports avec les autres, et qu'on retrouve d'ailleurs dans ses livres. Dracula, par exemple, c'est évidemment la rédaction et le transfert de sa relation avec Henry Irving, Irving étant Dracula et Stoker étant Jonathan. Donc j'ai poursuivi cette piste qui me paraissait originale et qui explique donc plein de choses quand on s'intéresse au personnage. Alors voilà, aujourd'hui, enfin Stoker est reconnu à sa juste valeur, justement par une journée comme celle-ci. Et ce que je voudrais dire, c'est que grâce à lui, j'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré Christopher Lee, Jimmy Sangster, Jean Marigny, Jean-Michel Ropers, Philippe Marlin. Donc ça crée des liens autour d'un personnage qui nous intéresse tous, sinon vous ne seriez pas là. Et donc je vous remercie d'être venu. J'espère que cette journée va être passionnante pour vous. Il y a plein de choses à découvrir. Je laisserai Jean-Michel dire deux mots du film qu'on va vous montrer, Les fantômes de Dublin. Ça fait partie d'une série qu'on a initiée ensemble. Il y aura cet après-midi Whitby et ce matin donc Dublin. Logiquement, il y en a un troisième qui est prévu sur Édimbourg. Mais on s'est attaché. Alors, on a pensé que c'était bien de commencer par Dublin. Et donc, parce que chronologiquement, on a tourné Whitby avant Dublin. Mais pour la journée, on s'est dit que c'était un petit peu plus judicieux de commencer par Dublin parce qu'on fait un portrait de quatre personnalités dublinoises de la littérature qui sont. Vous verrez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
Bien, merci Alain.